Radio Okapi.
Les informations grâce à Mzati Masandi.
À la une de l'actualité, les proches de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, désormais dans les collimateurs de la justice congolaise. Plusieurs caciques du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, notamment Obem Inaku, Ramazani Shadari et Ferdinand Kambere, ont été convoqués par l'auditorat supérieur militaire de la Gombe ce lundi. Entre-temps, ils sont interdits de quitter les territoires congolais. Mais dans quel contexte ces interpellations et auditions interviennent? Tentative de réponse dans quelques instants avec Jeff Ngoy qui suit de très près ces dossiers pour Radio Okapi. Dans ce journal, nous parlons du drame survenu à l'hôpital Feski Walungu dans la province du Sud Kivu. Un obus est tombé hier dans la soirée sur la toiture du pavillon de la pédiatrie de cette formation médicale faisant plusieurs blessés. Restez avec nous pour en savoir plus. La population du Haut-Katanga salue la réouverture de la pêche. Une décision de l'autorité provinciale après 3 mois de fermeture de cette activité. Le chef des services de l'agriculture, pêche et élevage dans les territoires de Kasenga, Thierry Mwamb, est notre invité. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le prêt carré de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, est désormais dans les collimateurs de la justice. Plusieurs hauts cadres du PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, dont Obem Inaku, Emmanuel Shadari, Ferdinand Kambere, ont été invités à éclairer la justice militaire ce lundi à l'auditorat supérieur militaire de la Gombe, ici à Kinshasa. Quelques-uns sont déjà entendus, dont Obem Inaku, et les auditions se poursuivent. En même temps, ils sont interdits de sortir du territoire national jusqu'à nouvel ordre, selon le ministre de la Justice dans un communiqué publié le vendredi. Le contexte dans lequel ces interpellations et auditions des opposants intervient avec vous, Jeff Ngai.
Ces invitations interviennent dans un contexte politique tendu entre ce parti d'opposition et le pouvoir en place. D'abord, le président de la République, Félix Tshisekedi, lors du sommet sur la sécurité à Munich, et le vice-premier ministre, Jean-Pierre Bemba, dans ses dernières sorties, ont ouvertement accusé Joseph Kabila d'être derrière le mouvement terroriste de M23 AFC dans l'est de la RDC. Ensuite, le chef du PPRD et les membres de ce parti ont rejeté ces accusations liant la crise sécuritaire du pays à la mauvaise gouvernance du régime Tshisekedi. Puis intervient la restructuration de leur parti. Obem Inaku, devenu vice-président, déclare que le temps des actions clandestines est passé. Et de son côté, Emmanuel Shadari, reconduit secrétaire permanent, exhorte les militants de son parti à garder le calme, affirmant que leur chef Kabila travaille en silence pour leur retour au pouvoir. Ces interventions sont enfin suivies d'une invitation au ministère de l'Intérieur tout récemment. Et sans plus tarder, Shadari est à nouveau invité par la justice militaire. L'opinion s'attend donc à savoir jusqu'où ira la justice congolaise dans ce nouveau feuilleton.
Merci à vous, Jeff Ngoy. Et à propos de l'agression de la RDC par les Rwandais, la presse congolaise s'est réunie ce matin dans un séminaire intitulé « Forum national des médias pour la paix, la sécurité et la cohésion nationale ». Initiée par l'ONG Journaliste en danger, cette rencontre a été introduite par le porte-parole du gouvernement. Objectif, amener la presse de la RDC à aider le pays à mettre fin à la guerre actuelle et ramener la paix. Plus de détails avec Donna Madimba.
Les thématiques programmées pour cet atelier d'un jour sont notamment la genèse des conflits dans la région des Grands Lacs, la problématique et les enjeux de la démocratie, la gouvernance et la cohésion nationale, la communication de crise en temps d'agression, la liberté de la presse ou encore la régulation médiatique. En introduction, Journaliste en danger, l'Union nationale de la presse en RDC et le ministre Patrick Muyaya ont insisté qu'il s'agit d'inviter la presse de la RDC, comme partout dans le monde en temps de menace nationale, à se mobiliser pour former et informer correctement l'opinion. Et pour le cas actuel, au-delà d'être le transmetteur neutre des nouvelles, savoir aussi participer à mobiliser le peuple, à protéger sa nation. L'objectif de la RDC, selon eux, étant de ramener la paix en mettant fin à la guerre, et pour cela, avec notamment l'aide des médias. Cette activité prévoit aussi un débat et à la fin, la remise au gouvernement d'un document de plaidoyer.
Donna Madimba Mbaya. Dans la foulée, la délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO et de l'Église du Christ au Congo SCC a été reçue ce lundi à Luanda, en Angola, par le président angolais João Lourenço. Le chef de l'État angolais a salué vivement l'initiative du Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et a promis son soutien à l'initiative en sa double qualité de président de l'Union africaine et de l'Angola. sur son compte X, ex Twitter, le révérend pasteur Eric Nsenga de l'ECC indique, je le cite, « Grande satisfaction pour cette mission d'harmonisation des vues avec le président Lorenzo en sa double qualité de président de l'Union africaine et de l'autorité de la facilitation du processus fusionné de Luanda et de Nairobi ». Fin de citation. Entre-temps, dans les territoires de Lubero Nord Kivu, au moins 13 civils, dont 4 femmes, ont été tués dans la nuit de dimanche à ce lundi dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF Angohi, un village situé à environ 40 km de la ville de Butembo. Selon la société civile locale, toutes les victimes ont été tuées à l'armée blanche. Les FARDC qui sont intervenus pour mettre fin aux tueries se sont lancés à la poursuite des assaillants, nous dit André Kitenge.
C'est dans la nuit de dimanche à ce lundi que ces 13 civils, tous des agriculteurs, ont trouvé la mort à la suite d'une incursion des rebelles des ADF. Selon la société civile de Vuinga, toutes les victimes tuées à l'armée blanche ont été surprises dans leur champ par les assaillants. Le bilan reste encore provisoire, car d'autres personnes manquent à l'appel, indique notre source. La société civile rapporte que cette attaque qui a visé les agriculteurs a également provoqué le déplacement de nombreux autres civils vers des endroits jugés plus sécurisés. Notre source sur place rapporte que le pire a été évité grâce à l'intervention des soldats des FARDC positionnés dans les villages de Mwangi et Makoko, non loin du lieu du drame. Les acteurs de la société civile de Vuinga demandent aux autorités militaires d'organiser des opérations conjointes FARDC-UPDF pour traquer ces rebelles qui continuent à semer la terreur dans la région. Ce matin encore, un calme précaire est observé dans la région pendant que l'armée continue à traquer les assaillants qui se sont dirigés vers la partie sud du village de Ngoy, indique notre source.
Nous l'avons dit dans les titres, un obus est tombé hier dans la soirée sur la toiture du pavillon de la pédiatrie de l'hôpital FSK Walungu. Dans les territoires du même nom, nous sommes au sud Kivu. 5 malades et une garde malade grièvement blessés. L'hôpital fonctionne timidement ce lundi sous une forte psychose, tant des malades que du côté personnel soignant. Un membre du staff médical de l'hôpital FSK Walungu témoigne sous anonymat. Suivez.
Il y a eu des gros dégâts au niveau de l'hôpital. À part les bâtiments, il y a eu des blessés à l'intérieur des salles. Il y a un obus qui a démoli la toiture et les éclats ont perforé les plafonds. Ces éclats ont atteint certains malades qui étaient hospitalisés dans ces services, occasionnant des blessés légers et complexes, parce qu'il y a parmi ces blessés celui qui est même aux soins intensifs, vu son état qui n'est pas très satisfaisant. Au total, il y a eu 5 blessés que ces balles ont trouvés au sein même de l'hôpital. À part ces services de pédiatrie, il y a les urgences qui ont été touchées, il y a la pharmacie de taille qui a été touchée, il y a des vitres cassées par-ci et par-là. Et donc le bilan est quand même lourd et qui exige le concours des autorités pour aider à restaurer ce qui a été démoli au niveau de l'hôpital.
Plusieurs sources croisées à Walungu Centre attestent que l'obus a été lancé par un élément du mouvement M23 qui occupe actuellement le chef-lieu du territoire de Walungu. Revenons un instant au Nord Kivu. Une dizaine de localités se sont vidées de leur population le week-end à la suite d'affrontements enregistrés dans la région de Nyabiondo, localité occupée depuis dimanche par les rebelles du M23. Alors que la cité de Nyabiondo avait accueilli un grand nombre de gens qui avaient fui les affrontements dans d'autres zones de Masisi, toutes ces personnes ont pris la direction de Kachebere, Kibua et Verwalowayungu dans les territoires du Walikale, renseignent les sources locales. Les conditions humanitaires sont précaires dans cette zone à cause de l'enclavement et de l'insécurité. Des explications avec Stanislas Diomi.
L'occupation de la cité de Nyabiondo dimanche après-midi a occasionné les déplacements massifs d'au moins 6 villages, notamment Luashi, Bukombo, Bonde, Nyabiondo Cité, Burore, Kanja, Mushani et Ngeshe. Tous ces habitants, parmi lesquels d'anciens déplacés, ont trouvé refuge au centre de santé de Kachebere, d'autres vers Kibwa et ailleurs dans la brousse, indiquent certains notables. Ce lundi matin, selon nos sources locales, les rebelles auraient avancé sans combat jusqu'à Kanta, à 6 km de Nyabiondo. Un calme apparent est signalé dans la zone, cependant la situation reste tendue. Plusieurs sources dans la région affirment en outre que les rebelles viseraient Walikale Centre pour ensuite accéder au gisement de Bissié. Toujours dans leur viseur, la société Shango Mining se trouve à Mahanga, dans le groupement Nyamabo Premier, ainsi que les pâturages et le bétail qui avaient été ravis aux fermiers par les Wazalendo. Notez aussi que cette zone de Nyabiondo fut le quartier général du groupe armé PCLS de janvier Kalahiri. Cependant, les acteurs locaux déplorent l'absence d'aide humanitaire dans la région affectée par les combats en dehors de Médecins sans frontières qui continuent à appuyer l'hôpital de Nyabiondo.
Direction le Kasaï central, où plusieurs maisons, une église et un moulin ont été incendiés à Tibala, dans les territoires de Kazumba, à la suite de la mort d'un élève poignardé. Selon des sources locales, la victime a été tuée lors d'une altercation avec un autre jeune, avec couteau à main, qui voulait lui arracher le téléphone avant de lui donner la mort. Montée, la famille de l'élève tué qui voulait se venger a brûlé plusieurs habitations dans la cité. Un député provincial élu du coin rassure que la tension qui était montée a baissé après l'arrestation du meurtrier qui sera obligatoirement jugé pour ses forfaits, souligne-t-il. Sosten Kambidi appelle la population au calme. Ses propos sont recueillis par François Kadima.
La tension était à son comble. En tant que notable du coin et élu, nous sommes intervenus pour calmer la situation. Et la situation s'est relativement calmée et la famille est allée enterrer le corps de l'élève tué dans la maison du parent du meurtrier présumé. Il y a eu quelques arrestations parce que les militaires de l'Ouest sont arrivés sur place. Il y a eu quelques arrestations. Nous saluons l'action de la police qui a réussi à mettre la main sur le meurtrier présumé qu'on voulait amener à Kananga. Nous leur avons demandé de le garder parce que nous avons demandé, nous allons mobiliser le moyen et éventuellement nous engageons sur le gouvernement provincial à jouer sa partition pour qu'une audience foraines soient organisées à Tibala et que le meurtrier présumé soit condamné devant femmes et enfants et tous ceux qui l'ont vu commettre ces forfaits. Mais sur le plan humanitaire, comme il y a beaucoup de gens qui dorment dehors, une évaluation est en cours. Nous espérons que le gouvernement provincial jouera sa partition et nous-mêmes, nous essayons de faire ce qui peut être possible pour trouver des fisques et des abris pour des personnes qui aujourd'hui dorment à la belle étoile.
Revenons ici à Kinshasa pour parler de ces problèmes qui se posent souvent dans plusieurs chantiers de construction ou de réhabilitation des routes. Il s'agit de la gestion des installations de la SNEL et de la régie des eaux présentes sur les avenues. Outre l'attente des financements, les ingénieurs sur le terrain et les sociétés d'exécution disent être souvent bloqués parce qu'ils doivent attendre que la régie des eaux et la SNEL viennent déplacer leurs câbles ou leurs tuyauteries. Dans ces deux entreprises étatiques, on plaide pour un cadre de concertation entre elles, la ville et les sociétés de construction qui détruisent des fois leur réseau. Qu'en est-il concrètement et quelles solutions y apporter? Benjamin Moudoumbi et Babel Mpongo nous en parlent.
Parmi ces chantiers qui sont ou ont été butés à ce problème, nous pouvons citer celui en cours sur l'avenue Maringa à Kasavubu, celui de l'avenue Rufuji à Kintambo, certains autres autour du marché central. Pour ce dernier cas d'ailleurs, Hicham Soufan, DG de l'entreprise Safrimex, s'en était remis au gouverneur de la ville lors de sa visite sur place en février dernier.
Je demande à Excellence de nous aider au niveau des problèmes régie d'ISO et SNEL.
Sur les chantiers de l'avenue Rufuji, l'entreprise en charge des travaux est d'ailleurs en train de retirer ses engins pour d'autres sites qui évoluent mieux. Du côté de deux entreprises incriminées, on ne reconnaît pas être à l'origine d'un quelconque blocage. Ici, on accuse plutôt celles qui exécutent les travaux routiers de non-respect des procédures et de fois de destruction même de la tuyauterie et des câbles. À la régie des eaux, son directeur provincial pour la partie ouest, Raymond Matundu, explique la procédure.
Avant qu'ils commencent leurs travaux, ils doivent passer chez nous. Quand on veut dévoyer une canalisation, nous faisons un défi auprès de l'entreprise qui a construit cette route-là. Le paiement ne suit pas. C'est ça qui bloque.
Le directeur provincial de la SNEL, Denis Tukuzu plaide pour un cadre de concertation.
Qui est au niveau de l'autorité initiateur des travaux, une coordination afin d'épargner certaines autres infrastructures.
Suite à ce manque de collaboration, des quartiers entiers ont vécu de longs mois sans eau de la régie des eaux et sans électricité.
Merci Babel. Restons à Kinshasa. Vous le savez, les coupures d'électricité sont monnaie courante, plongeant les habitants dans une situation difficile. Beaucoup de ceux qui espéraient une amélioration avec le prépaiement déchantent. Ce sont plus les nouveaux abonnés à ce système qui semble se retrouver entre les problèmes d'approvisionnement difficiles, les délestages. Plusieurs anciens abonnés au prépaiement se plaignent. Nancy Atambo et Benjamin Moudoumbi signent ce reportage.
Les coupures intempestives, souvent non planifiées, affectent le ménage. Les quartiers populaires sont les plus touchés et l'approvisionnement demeure ainsi en casse-tête.
Quand nous venons payer, ils nous disent qu'il n'y a pas de connexion et cela peut durer un ou deux jours. Ça nous arrive de faire 3 à 5 jours sans courant, étant qu'abonné prépayé.
Pour sa part, le directeur des distributions de Kinshasa, Denis Tukuzu, revient sur ses plaintes et rassure une amélioration de son service.
Cela est dû aussi à la perturbation que nous recevons des réseaux de l'Internet.
Et voilà pourquoi nous sommes en pourparlers avec eux, afin qu'ils puissent encore augmenter la capacité des fibres optiques qui nous dessert, pour que nous ayons assez de mégas, pour que notre clientèle soit servie dans de très bonnes conditions. Alors, pour ceux qui sont en prépaiement et qui enregistrent des perturbations importantes sur le plan dessert, le projet d'assainissement et de la remise en conformité des réseaux qui est en cours d'exécution a pour objectif final l'amélioration de la desserte auprès de la clientèle.
Kinshasa dépend largement de l'énergie électrique. Cependant, les réseaux vieillissants et la demande croissante ont entraîné une situation de pénurie chronique.
Actualité internationale.
Au Soudan du Sud, les appels à la désescalade se multiplient alors que les tensions entre le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar atteignent des nouveaux sommets. Affrontements armés dans plusieurs régions du pays, arrestations en série dans l'entourage proche de Riek Machar, dont la résidence a été encerclée, au point que l'équilibre qui prévaut depuis l'accord de paix signé en 2018 pour mettre fin à la guerre civile semble aujourd'hui menacé.
L'invité.
La réouverture de la pêche est effective sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga depuis le 1er mars 2025, après 3 mois de fermeture décidée par l'autorité provinciale. La population du territoire de Kasenga s'est réjouie de la croissance et de la multiplication des espèces pendant cette période. Pour en parler, Thierry Moam, chef des services de l'agriculture, pêche et élevage dans ces territoires, est notre invité. Il s'entretient avec Jean Gando.
Thierry Mwambe, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que cette période de fermeture aura été bénéfique pour les pêcheurs de votre secteur?
Les retombées, la fermeture des 3 mois ont été positives parce que nous avons remarqué la multiplication de certaines espèces, notamment les chrysistis appelés kabombola, vous avez les synodontis ou bongwe, vous avez les clarias et les kabambale. Et aussi, nous avons noté une augmentation de frétin.
Très souvent, on décrit l'utilisation de filets à mailles prohibées. Il y en a qui vont même pêcher des poissons avec des moustiquaires. Lorsque vous faites face à de telles pratiques, comment réagissez-vous?
Il y a certains pêcheurs qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas le bien fondé de la fermeture. C'est pourquoi ils vont mettre encore les filets. Et ces filets, nous les saisissons. Quand ces filets sont saisis, nous demandons une ordonnance au parquet et ces filets seront brûlés, donc incinérés. C'est de cette façon que nous procédons. L'arrêté de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a été respecté et mis en application. Pour votre information, le territoire de Kasenga est composé de 4 secteurs. Et dans chaque secteur, il y a des gardes-pêche qui sont là pour la mise en application de la loi. Ils ne sont pas seuls, ils sont accompagnés des éléments de sécurité réquisitionnés par le service à cet effet, notamment la police fluviale.
Annuellement, votre secteur produit combien de tonnes de poissons?
La production annuelle des poissons commercialisés s'élève à environ 1264 tonnes. Et les différents marchés où les poissons de Kasenga sont exposés, c'est notamment à Lubumbashi, à Likasi, à Kolwezi, voire même au niveau de Luambo.
Oui, mais nous savons que très souvent, lorsqu'il y a des biens qui sont produits, il se pose un problème d'évacuation avec les routes de certains agricoles notamment. Est-ce que les routes qui partent de ces différentes rivières vers les centres de consommation sont praticables pour permettre l'évacuation des produits halieutiques?
L'évacuation des poissons dans certains secteurs, en l'occurrence les secteurs Lopula et Kisamamba, ne fait aucun problème. C'est-à-dire, il y a les moyens de navigation qui transportent les poissons jusqu'à Kasenga Centre. Et de Kasenga Centre, les véhicules peuvent prendre du poisson et amener jusqu'à Lubumbashi sans aucun problème. La route, elle est en terre battue et elle est praticable. Par contre, dans d'autres secteurs, on a des petits soucis, surtout pendant la saison pluvieuse. Là, vous avez le secteur Kafira et aussi le secteur de Bakunda. Ce sont là les 2 secteurs où le transport des poissons pendant la saison pluvieuse constitue un sérieux problème. Mais après la pluie, le transport est facile.
Et est-ce que vous avez au moins une idée sur le nombre de pêcheurs qui sont dans votre contrée? Est-ce que ces pêcheurs sont constitués dans une structure donnée?
Les territoires de Kasenga regorgent plusieurs rivières, mais nous citerons les principales rivières, notamment la rivière Luapula, qui est le long de la frontière de la Zambie et la RDC. Et cette rivière va se déboucher au niveau du lac Mwero. Donc, il y a une partie du lac Mwero qui fait partie de l'hydrographie du territoire de Kasenga. Nous avons la rivière Lufira qui aussi est constituée de plusieurs affluents, notamment le lac de retenue Pungwe, Kisale, Kawama. La liste n'est pas exhaustive. Concernant la rivière Luapula, il y a aussi plusieurs lacs de retenue tels que Makandwe, Kibanama, Muloa, Kebesha. Dans chaque bief de pêche, il y a toujours un comité. Donc les pêcheurs ne travaillent pas en désordre. Ils sont constitués en comité. Et chaque comité a un président. Et au niveau territorial, ils ont un président du comité directeur. Le nombre de pêcheurs est aux environs de 5000 pêcheurs pour tous les territoires et à différents secteurs et dans les secteurs confondus.
Thierry Mwambe, je vous remercie.
Merci.
Notre invité était avec Jean Gando. Ainsi prend fin cette édition du journal sur Radio Okapi. La coordination des Richard Junior Kamunga sous la supervision de Pele Kipelamondo. Pierre Diassinoir a assuré la mise en onde et à la présentation grâce à Mzati Masanzi. Merci de nous avoir écoutés et bonne suite de l'antenne soir avec Christelle Fritti Mangwa.